o diabo e não dei aceitação. Pode rir, rir, mas não desacredita não. É só questão de tempo, o fim do sofrimento. Brinde pros guerreiros, é por fim eu lamento, velho. Que só faz peso na terra. Tira os olhos, vê se me erra.
Rencontre avec Stéphane Pauvret à l'occasion de son exposition intitulée « Juste une illusion », un ensemble d'œuvres présentées dans la salle Mario Torrent du Fonds Régional d'Art Contemporain des Pays de la Loire, du 18 janvier au 24 février 2008. Alors, première question à Stéphane Pauvret, qui est artiste, scénographe, cinéaste. Comment pourrais-tu décrire la genèse de l'exposition ?
Les œuvres sont toutes nouvelles, donc il y a aucune œuvre qui préexistait à l'exposition. Et donc, j'ai tout construit, chaque pièce, de manière parallèle. Chaque pièce s'inventait en même temps qu'une autre. Et donc, ce qui fait que, simplement, l'avant-dernier jour, j'ai eu l'intégralité de toutes les pièces. Et seulement, à partir du moment où elles ont été posées dans l'espace, la conception, on va dire, scénographique de l'expo s'est inventée. Et elle s'est inventée, d'ailleurs, d'une manière... assez spontané, puisque sont venues quelques personnes du FRAC, dont Laurence Gâteau, pour vraiment ensemble construire la correspondance entre les œuvres. Alors que paradoxalement, on pourrait dire que par ailleurs je suis scénographe, c'est-à-dire qu'en même temps qu'un travail d'artiste, je développe un travail de scénographie, où là je travaille en collaboration avec d'autres gens pour le spectacle, notamment le théâtre, la danse ou la musique. Et là j'ai cette mission d'inventer l'espace, de mettre en scène en tout cas des éléments. Et contrairement à mon habitude, pour cette exposition, j'ai eu besoin de la collaboration d'autres gens pour pouvoir faire ça collectivement.
Alors on sent dans certains éléments, je pense au praticable qui est derrière, qu'il y a effectivement cette notion de scénographie très forte.
Oui, c'est-à-dire que j'ai voulu aussi par moments remettre en jeu aussi cette activité qui est complètement impliquée dans l'activité solitaire, celle de l'artiste, c'est-à-dire d'inviter des éléments issus du monde du spectacle à venir dans cette pièce. Là, en l'occurrence, c'est un praticable, c'est-à-dire que c'est un module très simple de 2 mètres par 1, qui permet de faire des scènes. Assembler une scène est à chaque fois faite de ces praticables qui sont sur pied. Et simplement, ce n'est pas un praticable, disons, dans son aspect habituel, puisque j'ai décidé d'enlever la plaque qui est le plancher scénique pour la remplacer par une plaque en verre et faire que ce praticable soit en quelque sorte un socle pour une sculpture avec un effet de miroir. Et les sculptures qui sont dessus sont des sculptures qui parlent assez bien de l'ensemble de l'exposition, en tout cas, qui est simplement une relecture de la ville, mégapole. Et là, pour l'exemple, c'est celle de São Paulo, puisque l'exposition traite de la question du rapport d'une mégapole à la ruralité, au monde, disons, périphérique, qu'on connaît très bien dans le cas du Brésil comme étant les favelas, voire une périphérie beaucoup plus grande, celle des campagnes environnantes.
Donc, je suppose que c'est volontairement, quand on arrive dans la salle d'exposition, cette sculpture qu'on peut décrire en briques, une sorte de modélisation de la ville, une grande maquette. Et quand on contourne le praticable, ce qu'on n'aperçoit tout d'abord pas, ce sont des tout petits modules derrière, qui peuvent renvoyer à cette idée des favelas, du rejet en périphérie, voilà. Du petit par rapport au gros.
C'est ça. Là, toute cette pièce fonctionne sur un rapport d'échelle. Et d'ailleurs, c'est un rapport que j'ai aussi pour la construction de scénographie, de décor, puisque je travaille souvent en maquette, pour projeter un futur à l'échelle 1. Et là, j'ai fait en quelque sorte une sorte de démarche inverse, c'est-à-dire que j'ai pris le module le plus simple pour construire une maison, le plus répandu dans le monde, qui est de prendre une brique rouge en terre cuite, que tout le monde connaît, et à partir de la structure de la brique, qui est faite de plein de petites arêtes, de petites percées, à partir de là, je l'ai retaillée avec une scie circulaire, on va dire, et pour la refaire basculer à une échelle qui serait celle d'un immeuble de toutes ces grandes villes avec des immeubles de verre, avec des immeubles qui constituent ce qu'on peut dire un centre économique, celui de São Paulo ici, qui est le poumon vraiment économique de l'Amérique du Sud. Donc il y a un basculement. À partir d'un module primaire qui est la brique, on rebascule dans une échelle qui est plutôt gigantesque. Mmh. Voilà. Et effectivement, les petites maisons, qui sont encore des plus petits morceaux de briques, elles, à la périphérie de cette grande cité, symbolisent évidemment le rejet, tout ce qui s'est inventé durant, on va dire, les années 50, où les premières crises sont apparues dans l'industrialisation.
Donc en face, quand moi je suis arrivée dans l'exposition, le premier dialogue que j'ai trouvé, c'était directement entre ce praticable et cette installation d'un côté, et en face, la ville projetée, vidéo projetée, une grande image qui nous dépasse, qui est une image en négatif.
Cette image-là, c'est un autre point de vue de São Paulo, c'est un panorama. Donc qui a la particularité effectivement d'être en négatif, simplement pour essayer d'aller vers un aspect un peu fantomatique de cette vision, aller sur une image qui pourrait être aussi bien de nuit, mais à la fois inversée, donc les blancs sont noirs, les noirs sont blancs. Donc il y a un phénomène assez étrange, et il y a une phrase qui est d'ailleurs le titre de l'exposition, juste une illusion, qui, elle, on va dire, rassemble un peu tout le geste qui tourne autour de cette exposition, qui est le questionnement sur la modernité, sur le fait que ces villes qui se sont inventées, au fond, peuvent apparaître pour beaucoup de gens comme une illusion. Et quels gens ? Alors là, précisément, on rejoint un autre aspect de l'exposition. Des gens comme ce rémouleur, c'est une petite vidéo qui est montée en boucle et qui dure 2 minutes, que j'ai tournée dans les rues de São Paulo. C'est un personnage qui est dans la rue et qui, à l'aide d'une fabrication faite d'une roue et d'une structure métallique, déambule dans la rue et propose aux gens d'aiguiser leur couteau. Donc c'est un rémouleur, ou amolador en portugais. C'est un terme même que je connaissais pas en français, puisqu'on l'a un peu oublié, ces métiers ont disparu. Mais dans ces grandes villes, de manière tout à fait constante dans le monde, on a souvent ces petits métiers. Et ces petits métiers sont des gens qui inventent des moyens de survie face à la crise, et par ces moyens de survie vont inventer vraiment des personnalités extrêmement fortes. Et là, en l'occurrence, chez ce personnage, la force tient dans le fait qu'il produit un sifflement extrêmement caractéristique. Avant de rencontrer vraiment de manière frontale ce personnage, je l'ai d'abord entendu, comme des millions de gens, des milliers, pardon, l'entendent. C'est-à-dire qu'il a une sorte d'agissement dans la ville en son off, presque cinématographique, on pourrait dire qu'il est dans le hors-champ. Et une particularité, c'est qu'il siffle avec une petite flûte de pan, un jouet en plastique, et produit un son tellement spécifique qu'il est tout à fait reconnaissable parmi
tous. Qui surnage dans les bruits de la ville,
ouais,
parce qu'il est très très aigu.
Voilà. Et donc son cas était pour moi très frappant, parce que j'imaginais qu'il symbolisait parfaitement ce qu'on peut appeler dans le théâtre, par exemple, le cœur tragique, c'est-à-dire cette communauté qui vit une tragédie qui est celle de la ville. Et lui, il représente en ça très très bien cette histoire, puisque c'est quelqu'un qui vient de génération donc de paysans qu'on a fait arriver dans les villes pour les construire au début du XXe siècle, et il fait partie donc de cette deuxième ou troisième génération qui, après la crise, doit s'inventer une nouvelle fonction. il est en tout cas dans sa présence dans la ville tout à fait symptomatique de ce que je remets en question par l'illusion, c'est cette modernité. Il n'est pas d'ailleurs sans relation, parce qu'en fait toutes les pièces ici se correspondent. Lui, il est aussi en relation, quand je parle de cœur tragique, avec Pasolini, qu'on voit sur une reproduction en noir et blanc, qui est une reproduction d'une photo issue d'Internet et reproduite avec quand même la pixelisation d'Internet.
Qui lui donne une fragilité assez intéressante, touchante.
D'une part, et d'autre part, qui me donne le droit de l'utiliser, puisque dans son format Internet, j'ai le droit de la reproduire. Et donc, Pasolini, évidemment, est intéressant à différents égards. C'est qu'il a posé beaucoup de questionnements sur la ville, sur la modernité. Quand je parle de cœur tragique, évidemment, je fais référence à ses écrits sur le théâtre avec lesquels je suis assez familier. Et on le voit ici, ce qui est très surprenant, en train de jouer au football dans la banlieue de Rome avec des jeunes garçons. D'une part, il était passionné de football, ce qui est une chose assez inattendue pour ce poète qu'on sait très engagé. Et d'autre part, il a une particularité, c'est que j'ai simplement changé son ballon de football originel par un autre ballon. Et ce ballon de football est très particulier puisque c'est un ballon de football à l'effigie du mouvement des Sans-Terres. Et le mouvement des Sans-Terres au Brésil, c'est un mouvement qui lutte pour une réforme agraire, c'est-à-dire pour que les paysans puissent récupérer les terres qui leur ont été confisquées et accéder à un droit de propriété et un minimum de dignité et pour leur famille. Et donc tout ça est en lien parce que les paysans Sans-Terres, en fait, ne sont pas des paysans réellement. Réellement, ce sont des gens qui sont issus des favelas et qui, dans des cas bien souvent, n'ont même pas jamais du tout pratiqué la terre. Mais le mouvement des Sans-Terres, en fait, c'est un des mouvements altermondialistes les plus puissants qui va justement dans ces quartiers où il faut dire que les gens sont vraiment dans une misère extraordinaire entre la violence, la drogue, la faim, enfin voilà. Et le mouvement essaye de tirer de là, par son action politique, ces gens-là pour leur proposer des conditions de base. Et donc, cette exposition traite aussi de la question d'un exode qui n'est plus celui qu'on connaissait, l'exode rural de la campagne vers la ville, mais d'un nouvel exode qui s'appelle, que je nomme en tout cas, exode urbain. Quel phénomène inverse ? On part de la ville pour sauver sa peau.
Quand tu reprends ce logo sur le ballon, par rapport à Pasolini, tu remues aussi une autre histoire qui est celle dont tu parlais, de l'engagement de Pasolini, qui lui-même a milité en Italie par rapport aux propriétaires terriens italiens. Et donc cette connexion via le cinéma, via le football, tu la rejoues dans une autre installation.
Oui, alors là ça va nous permettre de faire un point sur l'origine même de cette exposition. C'est-à-dire que j'avais il y a un an tourné au Brésil un long métrage, un documentaire, 3 mois, justement dans un groupe de Sans-Terres. Un groupe de Sans-Terres assez particulier puisque en dehors de lutter pour avoir une terre, il y a un projet d'éducation dans ce mouvement et notamment le groupe avec lequel j'étais travaillait sur une forme d'une activité artistique, en l'occurrence le théâtre. Donc ce groupe-là m'a vraiment intéressé puisque à partir de cette expérience-là, qui m'a été raconté par un comédien. Nous avons fait un travail de mise en route via un texte de Pasolini qui s'appelle Pilade, d'un questionnement sur leurs propres conditions. Parce que le texte de Pasolini traite exactement comme un effet miroir de leur situation sur une nouvelle possibilité pour eux d'existence. Et donc le comédien en question, avec qui j'ai eu les premiers contacts pour faire ce film, m'a offert à la fin de ce tournage un ballon. Et donc c'est le ballon de foot du MST. Et j'ai été extrêmement surpris. Je croyais au départ que c'était une fabrication de sa part. Mais en fait, j'ai découvert que ce ballon était vraiment, faisait partie en fait d'une communication du mouvement, au même titre que des t-shirts, que des casquettes. Et simplement, pour moi, il relevait d'un paradoxe absolument fou, qui était de poser sur le ballon de football, qui est tout ce qu'on sait, et surtout au Brésil, d'une puissance économique et
médiatique,
souvent médiatique et souvent aussi très abusive, voire on peut dire dans une corrompue, d'apposer en tout cas ce signe-là, cette image de ce groupe sur le ballon, m'a paru être là l'objet d'un point de départ justement à soulever entre ces rapports de lutte politique et sociale, et puis finalement aussi l'obligation presque de s'inscrire dans un mouvement d'une telle puissance qu'est par exemple le football au Brésil. Alors là, il est simplement, ce ballon, il est exposé au sol, très simplement posé, et son pendant sur un mur, c'est une photographie du ballon lui-même, mais cette fois-ci dégonflé ou crevé, et à côté duquel figure un texte. Ce texte s'appelle « La loi de l'air ». Et Euler, c'est simplement un mathématicien suisse du XVIIIe siècle qui a formulé mathématiquement l'assemblage actuel du ballon, qui est fait de hexagones et pentagones, et par une formule qu'on peut éprouver en lisant simplement le texte, quand même assez savante, mais on peut y arriver en prenant son temps. On comprend en fait que ce type-là a simplement inventé, 2 siècles plus tôt, avant même que l'objet soit créé, le ballon de foot. Et en même temps, pour des gens qui s'intéressent plus spécialement à l'art, il y a aussi une référence historique qui est un petit peu un clin d'œil, on va dire, à une œuvre conceptuelle de Joseph Kossuth, qui est très célèbre, où on avait vu une chaise dans l'espace, là c'est le ballon, on avait vu la photographie de la chaise et
la définition.
Exactement. Simplement, là, la digression par rapport à cette pièce historique, c'est simplement que j'ai dégonflé le ballon dans la photographie, ce qui normalement devrait être l'inverse. Le ballon devrait être photographié bien plein, bien gonflé, et dans la réalité éventuellement se dégonfler avec le temps. Mais là, c'est la photographie qui subit le temps.
Alors moi, j'ai vu aussi dans les analogies formelles, puisqu'il y en a plein dans l'exposition, par exemple, tu parlais de l'invention du rémouleur avec sa roue de bicyclette tout à l'heure. On peut retrouver cette forme circulaire dans le ballon, et dans le ballon dégonflé, le regard aussi peut ricocher sur une installation posée presque en face, qui est une sorte de pop-corn géant.
Oui. Ce pop-corn fait partie des expériences aussi que j'ai voulu faire dans le cadre de cette exposition. C'est-à-dire qu'auparavant, je n'avais jamais fait de sculpture. Et pour moi, à chaque occasion, le fait de émener des travaux de scénographie et de faire un film documentaire avec, on peut le dire, un circuit plus cinéma, et par ailleurs de faire des œuvres de photographie ou plastique, ici, le FRAC m'a donné l'occasion de m'inventer en quelque sorte sculpteur, de me poser des questions fondamentales sur la sculpture. Et là, pour le coup, on est en face d'un pop-corn. Simplement, ce pop-corn est complètement surdimensionné. On pourrait dire simplement que son parcours est celui-ci. Au départ, quand on prend un grain de maïs et qu'on le fait exploser dans sa casserole pour en faire un pop-corn, on a une explosion x30. Et moi, j'ai repris en fait un pop-corn que j'ai explosé et je l'ai réexplosé une seconde fois x30. Et on arrive à une taille à peu près de 45-50 cm. D'une part, en fait, ce geste-là est en soi aussi un geste culturel, puisque j'ai choisi parmi des centaines de pop-corn celui qui me paraissait le plus correspondre à l'image mentale qu'on pouvait se faire de cette chose-là. Parce que ce qui est assez singulier comme expérience en face de la sculpture, c'est qu'on ne voit rarement qu'un seul pop-corn. Quand on a, en tout cas, un rapport au pop-corn, c'est dans la multitude. Et là, il y en a un seul, il est isolé. Isolé parce qu'il raconte quelque chose d'assez fort sur le Brésil, qui est la monoculture. Le problème des sans-terre, et d'ailleurs pas que d'eux, mais de beaucoup de paysans, est le problème de l'agro-business et de la monoculture, du fait que la culture plurielle a complètement disparu au profit de grandes industries d'agro-business. Donc là, si vous voulez, en même temps, on a le rapport de l'un, et en même temps, le rapport surdimensionné qui traiterait du méga ou de méga OGM, pour être très concret.
C'est le premier exportateur mondial, je crois.
Voilà. Alors, en plus, le Brésil a cette particularité au niveau de l'agriculture d'être vraiment ce qu'on a appelé à un moment le grenier du monde. Toute son histoire est complètement traversée par des flux extrêmement importants de pillages qui ont été l'or, le café, le bois par l'Amazonie, et évidemment toutes les cultures sont à des dimensions colossales, puisque le Brésil c'est une fois l'Europe ou 13 fois la France. Si on prend le cas d'une photographie, celle que j'ai appelée les présidents. Alors, pour la décrire, simplement, on voit une personne à son bureau, assise, les yeux baissés sur une feuille A4, très banale, en train de signer ce papier ou d'écrire. Au-dessus de lui, il y a un portrait de type administratif, très reconnaissable, c'est le portrait du président du Brésil, Lula. Et bien souvent, quand on appréhende cette photographie, immédiatement, on pense que la personne qui est en train de signer le papier, c'est Lula. Or, ce n'est pas lui, c'est simplement un autre président. C'est d'une part, au-dessus de lui, le président du Brésil, Lula, et lui-même le président du parti des travailleurs, qui est le parti de Lula. Et ce qui m'a frappé, c'est simplement la correspondance incroyable physique entre le président et son chef de parti. Et de là est née en fait toute cette histoire, parce que là on voit cette personne en train de signer un papier qui fait partie de l'expérience du documentaire, puisque j'ai interviewé cette personne. Et à la fin de chaque interview, évidemment, on fait signer une autorisation de droit d'image et de son. Et pour le coup, voyant cette situation, j'ai demandé de pouvoir, après l'entretien, prendre une photo. Et à côté de cette photographie, on trouve le papier en question qu'il a signé. C'est-à-dire, simplement, dans le cadre légal d'un documentaire, une autorisation d'utiliser pour quelques moyens de diffusion, que ce soit télévision, DVD, tous les supports. Et en plus, cette petite phrase qui m'a beaucoup interpellé, qui est que on peut utiliser son image et le son d'une manière future dans n'importe quel support qui viendrait à exister. Et donc j'ai trouvé ça assez fort comme prolongement au niveau des questions de droit d'image, d'une sorte d'infinité en fait. Et donc on reconnaît en fait qui est ce personnage, parce qu'évidemment il signe en bas du papier Paolo Frateschi, qui est son vrai nom. Et donc le doute est complètement levé sur sa vraie identité.
Mais toi tu le fais un peu perdurer, parce que la mise en abîme est parfaite. Il signe cette autorisation sur un bureau complètement neutre, sur un fond blanc, donc sur lequel est accroché ce portrait officiel de Lula. Et toi, tu le remets en abîme dans un cadre noir qui est le même que celui du portrait, à peu près avec le même type d'encadrement, etc.
Voilà.
Vertige d'identité, un peu.
Il y a une sorte d'effet gigogne, on va dire, où le cadre du président Lula se retrouve être le même que celui qui comporte la photo et le document A4. Effectivement, et d'ailleurs à tel point que c'est un mode d'accrochage administratif qu'on voit très peu dans un lieu d'expo, que l'encadreur m'a mis en garde en disant: attendez, vous voulez faire quelque chose qui est absolument démodé.
Et puis ça renvoie à Kossuth aussi, enfin, quelque part pour moi il y avait un écho avec l'œuvre La loi de l'air qui est derrière.
Oui, il y a une petite entre ces deux œuvres, il y a une correspondance sur ce qu'on pourrait appeler le langage et l'image, cette sorte de jeu entre ce que l'on voit et ce que l'on peut lire.
parlais d'une présence du texte dans cette œuvre Les Présidents, avec cette autorisation administrative. Et alors après, l'œuvre qui est dans le coin, donc alors, 5 pancartes posées contre le mur, où tu as écrit, c'est ton écriture?
Oui, c'est mon écriture.
Des phrases, alors est-ce que tu les as extraites d'un texte?
Oui, oui. Donc effectivement, ces phrases-là sont celles de Pasolini. Du texte Pilade, qui a été le texte, disons, fondateur du documentaire tourné au Brésil. Voilà. Alors, spécifiquement, il m'intéressait en tout cas de remettre à la lecture des visiteurs les mots mêmes de Pasolini, d'en refaire la lecture intérieure pour quelque part redistribuer aussi sa puissance à Pasolini qu'est la poésie. Alors on peut faire la lecture justement de ces 5 pancartes. Ça commence par cette phrase qui est très très ouverte. Le monde est méconnaissable et tout s'est passé presque entre le matin et le soir. Les rues s'animent de plus en plus, ça bavarde chez le coiffeur. Les garçons vont au stade en training, les filles s'appellent par leur prénom, attendant l'heure du bal que le soleil est en haut. Eh bien, tout cela n'est plus la réalité. C'est la conclusion. Donc, ces 5 pancartes traitent d'une manière, pour moi, assez, on va dire, synthétique aussi du rapport à la ville et à la modernité. Quand Pasolini dit que le monde est méconnaissable et tout s'est passé presque entre le matin et le soir, pour moi, il dit simplement, face à cette ville, face à cette mégapole, cette immensité, que s'est-il passé entre le matin qui serait la naissance de la ville et le soir, son explosion, sa surdimension, qui fait qu'il y a une interrogation, qu'ont inventé les hommes, quelle est cette modernité? Et après, comme toujours chez Pasolini, c'est là où il y a sa force, c'est qu'on va dans des choses très banales, les rues s'animent, on est chez le coiffeur, les garçons sont au stade. Et donc, il y a quand même malgré tout une vacation, on va dire, aux activités les plus concrètes. Et de ce concret-là vient une phrase comme ça, un peu comme une phrase, un couperet, dire « Eh bien, tout cela n'est plus la réalité. » Et tout cela n'est plus la réalité rejoint le titre de l'exposition qui est juste une illusion. Est-ce une réalité, cette construction ? Dans le cadre de ce documentaire où nous avons travaillé avec des jeunes gens sans terre qui quand même habitent dans un campement, on appelle ça légalisé, avec, même si c'est très modeste, quand même des constructions, des baraquements, des choses, le monde se remet en place. Malgré tout, ce qui est extrêmement frappant, on pourrait dire qu'évidemment, il y a quelque chose d'assez insolite de voir tous ces gens s'intéresser très fortement et s'impliquer dans une activité artistique et avoir ce rapport incroyable avec Pasolini d'interrogation sur leurs propres conditions et en même temps un désir de partage, un désir d'activité artistique qui fait du lien entre eux, un lien social hyper fort, puisque cette activité-là leur permet de sortir du campement et d'aller représenter leur travail ailleurs.
La dernière vidéo dont on n'a pas parlé, assez complexe aussi, dans ses tenants, ses aboutissants, où notamment on voit ce jeune garçon manipuler des pop-corns. Évidemment, le pop-corn, pour nous, c'est aussi le cinéma, ce que tu consommes quand tu vas voir un film, et redessiner son pays avec ses pop-corns, tout en s'appropriant, en tout cas ça c'est dans ton projet, la voix de son président, maintenant Lula, donc élu, et un fragment de discours politique sur où en est la droite au Brésil en 82, parce que je crois que c'est ça.
C'est ça, oui, c'est ça, exactement.
Et qu'est-ce qui s'est passé depuis que Lula est au pouvoir? Mais là encore, dans cette manipulation pop-corn, je vois un moyen poético-fictionnel.
Oui. Alors voilà, ça c'est le jeu des correspondances entre la sculpture dans l'espace et une sorte de petite performance qui se voit à l'écran avec un jeune garçon qui a 11 ans et qui redessine avec le pop-corn la carte du Brésil ou de l'Amérique du Sud d'ailleurs, on n'est pas très certain. Et ta remarque est très juste, le pop-corn fait aussi évidemment référence à l'industrie cinématographique, évidemment. Et pour revenir à la sculpture elle-même, je me suis rendu compte, une fois qu'elle a existé, qu'elle était là présente, qu'en fait c'est un objet qui bénéficie d'une très grande sympathie dans l'univers mental, et en même temps, elle est extrêmement, cette forme-là, perverse, de par, évidemment, le jeu politique qui est avec l'agro-business, avec l'industrie du cinéma et tout ça, tout ce qu'on sait. Alors, la vidéo elle-même, cette vidéo qui est présentée sur casque, puisque la bande-son est extrêmement importante, c'est une vidéo qui a eu pour origine une conversation entre Lula, alors syndicaliste, pas du tout dans l'idée même qu'il serait un jour président, et Guattari, philosophe français de renom, qui avait cette habitude d'aller un peu prospecter dans le monde entier des gens qui étaient justement dans la lutte politique, dans un engagement fort. Donc, il a été invité au Brésil par une femme, Sueli Rolnick, qui elle-même m'a remis en tout cas les bandes de cet entretien, qui est par ailleurs psychanalyste et critique d'art, ce sur quoi on a eu cette rencontre. Et elle m'a offert en fait un livre qui s'appelle « Micropolitique », à l'intérieur duquel il y a simplement une sorte de journal de bord qui raconte ce séjour de un mois de Guattari au Brésil, qui a rencontré énormément de communautés qui étaient alors en lutte et souvent des communautés qui sont minoritaires. Et dans ce livre figurait cet entretien entre Lula et Guattari, qui a un titre extrêmement important qui s'appelle « Un avenir qui est déjà arrivé ». Ce titre qu'a donné Sueli à cet entretien, je l'ai gardé parce qu'il me semblait totalement bien résumer cette situation. On est en 82. Ces deux hommes qui sont très fortement impliqués politiquement, l'un dans le syndicalisme, l'autre dans la pensée, se rencontrent à un moment donné où ils vont essayer de prophétiser en quelque sorte l'avenir qui n'est pas encore arrivé. Et ce qui est très singulier, c'est que non seulement en 82, au Brésil, on est à 2 ans de la fin de la dictature, et en France, il y a un effet aussi miroir important, on est pour la première année, en tout cas, sous une nouvelle présidence qui était la première élection de Mitterrand. Donc, dans les deux pays, on a des moments extrêmement charnières. Et cette conversation s'est passée il y a 25 ans, et là, j'invite vraiment les gens à venir écouter cette conversation parce qu'elle a une nature prophétique extraordinaire où dans un premier temps évidemment il sera question du Brésil et Lula va expliquer le jeu de la droite et comment on peut en tout cas essayer de trouver une voie de sortie de la dictature, ce qui va arriver. Et dans un second temps, parce que là où c'est extraordinaire, vers la fin de l'entretien, Lula inverse la question pour Guattari en lui demandant et alors la situation en France, et là je vous laisserai découvrir. Guattari explique ce qu'on connaît aujourd'hui précisément. Donc pour dire aussi, la vidéo il y avait une sorte de challenge qui était de s'approprier un discours politique, ce qui est vraiment pas évident puisque c'est une parole quand même assez poussée, pas forcément très très plaisante, et mon point de départ a été de dire, au fond, quand Sueli Rolnick m'a donné ces deux cassettes, qui sont des cassettes très anciennes, qu'on connaît tous, des années 80, BASF, jaune et noir, et donc j'ai eu un choc visuel. Et tout de suite, j'ai dû rechercher mon ancien magnétophone, qui date d'ailleurs de cette époque, et le remettre en route, puisqu'on n'utilise plus ce format-là. Et évidemment, comme ça m'arrivait à l'époque, la cassette ne marchait pas, elle était bloquée. Donc j'ai tout de suite téléphoné à Souilly en disant, voilà, j'ai un document historique entre les mains quand même, un président d'une des plus grandes nations au monde et un des philosophes français les plus fameux. Est-ce que je peux l'ouvrir pour réparer cette chose-là? On a un petit peu réfléchi, dit, oui, vas-y, en quelque sorte, opère, vas-y, fais l'opération chirurgicale. Donc j'ai compris que ce geste-là allait être le début du film. Donc au début du film, on voit mes propres mains en train de manipuler cette cassette à l'aide d'un petit tournevis et de la réparer. Et très vite, dans la séquence suivante, on voit un enfant de 11 ans. Pourquoi 11 ans ? Parce que c'est simplement l'âge que j'avais à l'époque où j'avais et le magnétophone et ce genre de réflexe de réparation. Donc quelque part, cet enfant représente une sorte de passage, comme l'indique le titre, dans un futur antérieur, enfin une sorte de dédoublement de ma propre personne. Et au moment où l'enfant appuie sur le magnétophone et fait play, là on entend Guattari poser sa première question. Alors après, évidemment, il y a encore d'autres strates. Il y en a une qui est assez intéressante et peut-être un peu énigmatique pour le spectateur. C'est simplement, à un moment, on va dans des images qui sont celles d'un aquarium, d'un océarium, précisément, avec
un poulpe.
Avec
une tortue,
voilà, ce monde sous-marin étant pris comme un monde en soi. Représente évidemment tout ce qui est décrit dans l'entretien, le jeu du pouvoir étant représenté par le requin, les petits poissons, le peuple. Donc l'analogie est simplement faite parce que aussi j'ai voulu faire que, pour justement avoir un rapport de sensibilité avec ce discours politique, en faire en quelque sorte une fable. Et le point de départ là était très très précis, c'est que Lula est le seul président au monde à avoir un surnom, parce qu'au Brésil beaucoup de gens portent le même patronyme. Donc comme il s'appelle Luis Inácio da Silva comme des millions de gens, on donne dès l'enfance à tout le monde des surnoms. On connaît ça très bien dans le football brésilien. Et Lula, j'ai découvert assez rapidement que simplement, parce que les surnoms ont toujours une signification, ça voulait dire poulpe, calamar. Donc j'ai eu ce déclencheur pour travailler sur le monde sous-marin et en quelque sorte sonder les profondeurs de la gauche à cette époque.
Est-ce que tu sais la raison pour laquelle il a été surnommé Poulpe ?
Non, ça c'est une question que j'aimerais bien avoir la réponse, mais pour l'instant personne ne me l'a donnée. Je pense que ça peut tenir, puisque c'est lié à son enfance, des jeux de gamins, puisque faut quand même savoir que Lula est le seul président, un des rares, il y en a peut-être un autre en Amérique du Sud, mais qui est certainement le seul président qui n'a suivi aucune étude. Mais vraiment aucune, c'est-à-dire qu'à l'âge de 7 ans, il était dans la rue en train de vendre des oranges. Et en quelque part la célébrité, la starification politique de Lula tient aussi, même d'ailleurs assez étrangement du côté des Américains, au fait que c'est un self-made man, que c'est un type qui a eu cet incroyable parcours, presque de l'ordre d'un conte, d'une fable, d'une ascension sociale totalement improbable.
Globalement, on parlait du temps, donc projection dans un sorte de futur antérieur par rapport à cette vidéo, de cette phrase de Pasolini que tu disais tout à l'heure, tout s'est passé presque entre le matin et le soir. Il y a, comme dans les films, comme au cinéma, dans l'exposition, des expansions et des compressions temporelles. Je ne sais pas si ça a été un des liens que tu as fait entre les pièces, et je voudrais revenir à cette idée de cinéma.
Ouais. Alors, l'expansion, ces compressions, c'est un petit peu aussi, je dirais, dû au titre de l'exposition qui se présente comme juste une illusion. C'est-à-dire qu'on est en face presque d'un mirage, et quand on pose des questions à un moment donné sur ce qui apparaît, sur ce qui est, on essaye d'en trouver les sources. Là, le questionnement, c'est sur la modernité. Donc, dès qu'on questionne la modernité, quelque part, on essaye de se poser aussi les origines de cet état. Et je crois que le rapport, en tout cas, on va dire, à l'antériorité, au futur envisageable, au présent qui est là, C'est un rapport évidemment aussi lié au cinéma, puisque le cinéma permet cette chose-là, de se projeter dans un futur, comme d'interroger le présent ou de réinterroger le passé. Voilà, je crois que ça fonctionne comme un tout, comme une démarche, on pourrait dire, oui, peut-être un peu scénographique, cinématographique, à la différence près que j'ai tenu particulièrement à ce que le documentaire long métrage, donc c'est 1h20, ne soit pas présent dans l'expo, mais qu'il garde son autonomie comme un satellite qui permette en tout cas d'y avoir accès à l'extérieur de la salle. Il est en accès libre, on peut à la demande visionner le film dans son intégralité, mais on ne peut pas l'appréhender sur un seul petit morceau. Je pense que justement l'exposition et ce redéploiement, puisque pour moi il y a le film à l'origine et après il y a un redéploiement, non pas tant du film mais plutôt de l'expérience du Brésil, pris comme un exemple pouvant être beaucoup plus large que le cas spécifique. Alors toutes ces pièces peuvent s'appréhender sur une temporalité qui est plus celle de l'exposition et pas celle du cinéma. Et le projet même aussi de cette exposition, ce serait d'une manière un peu plus large et spécifique à l'utilisation d'un lieu comme le FRAC, de se poser la question aussi de, suite à une expérience de documentaire, comment on peut rejouer, remettre en scène par des moyens vraiment plastiques, sculpturales, photographiques, de vidéo, la question très très présente dans les arts contemporains du documentaire, d'une expérience vraiment en relation avec l'autre.
Et toi, en l'occurrence, le film que tu évoquais, donc qui est présenté à l'extérieur de la salle d'exposition, tu n'aurais pas pu envisager de le présenter dans une seconde salle d'exposition avec un type d'installation qu'on connaît. Guerre entre l'exposition et la salle de cinéma.
Complètement. La première chose qu'on s'est posée ici avec Laurence a été de se demander si il y avait le film ou pas dans la salle. Et là, j'ai répondu quand même assez précisément que s'il y a le film, on reconstitue une salle de cinéma. C'est-à-dire qu'on reconstitue les moyens, le confort de pouvoir rester l'intégralité du film dans la salle. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non. Et finalement, évidemment, en faisant ce geste-là, ça m'aurait évidemment détourné de la possibilité d'inventer d'autres pièces. Et au final, je suis aujourd'hui vraiment, on peut dire quelque part, comblé d'avoir pu prendre ce temps pour refaire une lecture de cette expérience avec vraiment la lutte que je peux avoir en coupant des briques pendant 10 jours et en étant complètement dans un travail de sculpteur. Donc il y a eu évidemment cette question d'inviter le cinéma dans la salle, mais en même temps je pense qu'il est plus juste que le film ait son autonomie, et c'est pourquoi on l'a vu il y a quelques jours au Cinématographe à Nantes en projection publique, et là ça a été formidable puisque suite à la projection il y a eu une rencontre avec le public. Et d'ailleurs ce film je ne l'ai pas réalisé tout seul, je l'ai réalisé avec une autre personne avec qui je travaille d'habitude dans des sphères plus théâtre, Bérangère Janel, qui est aussi quelqu'un avec qui je fais beaucoup de spectacles qui traitent de ces questions-là, de qu'est-ce que la modernité, et en regard de toutes ces dérives possibles face à des réalités sociales quand même assez cruelles.
En voyant les différentes œuvres dans l'exposition, je me suis dit que cette expérience filmique que tu retravaillais, que tu redéployais, que tu réinterrogeais, elle me semblait encore en cours pour toi, ou quelque chose de non élucidé, et notamment par ce jeu sur les échelles que tu proposes dans la salle, je ressentais le besoin là aussi d'une réappropriation on a quand même, pour moi c'était assez marquant d'arriver dans la salle d'exposition et d'avoir une démultiplication de San Paolo, mmh. où on essaie toujours de dominer visuellement la ville ou de l'embrasser ou d'essayer de la remettre à son échelle utopiquement, comme tu le fais par exemple avec l'installation sur le praticable, oui, de l'embrasser humainement, alors que dans la réalité cette mégapole est complètement, nous dépasse complètement.
Oui, oui. D'ailleurs c'est assez le cas, parce que simplement ce praticable est ce qu'on appelle monté sur ciseaux, c'est-à-dire qu'on peut varier sa hauteur. Et quand j'ai sculpté cette ville, au départ, le praticable était plus haut. Et donc, on avait un rapport presque d'une table, un peu plus haut qu'une table, 1m40. Et donc, on était quelque part dans la ville au même titre que pourrait l'être ce personnage qui aiguise les couteaux. Et finalement, un peu par hasard, en montant, démontant la sculpture, je me suis rendu compte qu'en posant ce praticable à une hauteur de 40 cm, tout d'un coup, le rapport faisait que, évidemment, c'est ce que tu viens de dire, on avait un rapport globalisant sur la ville, et voire même un rapport spécifique à San Paolo, qui est le rapport que pourrait avoir un hélicoptère surplombant, survolant cette ville. Puisque c'est une ville de 22 millions d'habitants, absolument énorme, avec parmi les embouteillages les plus connus au monde. Et maintenant, les gens les plus fortunés se déplacent d'une tour à l'autre, d'une base à l'autre, en hélicoptère pour faire simplement leurs courses, ce qui est absolument incroyable. Et du coup, en la repositionnant à une échelle un peu plus basse, on peut faire le tour et effectivement avoir ce sentiment d'une ville, d'une mégapole.
Et cette sensation aussi très cinématographique, voilà, de vue en plongée, voilà. Utopiquement, à notre petite échelle humaine, on survole la réalité, on la contient d'une certaine manière, ouais. Et on la contient aussi dans la vidéo avec le rémouleur qui est posé au sol, et d'une certaine manière de par ton cadrage. Pour la vidéoprojection Juste une illusion, on est aussi dans cette utopie de contemplation maîtrisée d'une certaine manière.
Donc, oui, je sais pas si t'as oui, oui. Enfin, par exemple, la vidéo au sol du rémouleur, pour moi, il était tout à fait normal de le remettre à l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire au sol, dans la rue, en train de marcher, de déguiser les couteaux, et d'avoir ce rapport-là, cette humilité, parce qu'il est assez facile de s'approprier comme ça des formes singulières qui traitent aussi d'une esthétique de la misère, et de les sublimer. Pour moi, il était absolument hors de question. Il fallait avoir un rapport d'honnêteté aussi par rapport à tout ce qui est traité dans l'exposition, quand même, de vies qui sont des vies de laisser pour compte.
Alors, en voyant cette vidéo, moi, ça m'a beaucoup rappelé certaines images de Francis Alice, qui a justement, à mes yeux, cette sensibilité-là, hein, de non-sublimation, de justesse par rapport à l'évocation de la vie, ces gens.
Du petit rien.
Voilà. Et de l'invention aussi, pour s'en sortir.
Et par rapport à Francis Alice, la correspondance pourrait être celle aussi de son travail qui s'insère dans la ville de Mexico, qui est aussi une des plus grandes mégapoles. Donc évidemment, on retrouve aussi ces phénomènes d'exclusion. Mais à la différence près que lui, peut-être, se met encore plus en scène dans les situations, puisqu'il est souvent assez aussi performeur, et que moi, je ne suis jamais, en tout cas, ou que rarement,
présent physiquement
à l'image. Ça, on voit à peine mes mains, ce qui était déjà pour moi un grand pas, en train de réparer la cassette dans la vidéo avec Lula. Et simplement aussi ce praticable, je crois qu'il est intéressant de voir que, comme c'est un élément scénique, il donne aussi cette dimension d'une représentation du monde. puisqu'on est vraiment inscrit sur un plateau de théâtre du monde.
Un plateau de théâtre du monde, celui de l'artiste Stéphane Pauvret. Nous évoquions ensemble son exposition « Juste une illusion » qui se déroule au FRAC des Pays de la Loire jusqu'au 24 février 2008. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site du FRAC www.fracdespaysdelaloire.com. Cet entretien fut réalisé le 24 janvier 2008 par Eva Proutot.
Eu prefiro rosas. Eu que sempre quis um lugar gramado e limpo assim, verde como mar, cercas brancas, uma seringueira com balança, desbicando pipa, cercado de criança. Ho, ho, brau, acorda sangue bom, aqui é Capão Redondo, não Pokémon. Zona Sul é Zé, estresse concentrado, um coração ferido por metro quadrado. Quanto mais tempo eu vou resistir, mesa não é questão de luxo, não é questão de cor, é questão de fartura, alego sofredor, não é questão de preza, nego ideia é essa, miséria traz tristeza e vice-versa.